Marie Webb, Le précieux fléau.
Livre 1. Chapitre 1. Les temps de Sarne. Ce fut à une veillée d'amour du filage que je vis Kester pour la première fois. Et si, en ces jours de nouveauté, alors que d'étranges inventions pullulent autour de nous, alors que j'entends dire qu'il y a même une machine qui s'utilise en divers coins du pays pour moissonner et lier, il se peut que ceux qui liront ceci ne sachent pas ce qu'une veillée d'amour du filage peut bien être. Eh bien, ils le sauront bientôt. Mais, bien que ce fût la veillée d'amour du filage de Jancis Begindi, qui avait alors 23 ans, tandis que j'en avais 2 de moins, ce n'est pas cependant là le début de l'histoire que j'ai l'intention de raconter. Kester dit que toutes les histoires, les vraies ou les romancées, remonte bien avant l'enfance, oui, même bien avant la période où le bébé est dans son berceau de jonc. Il se peut que vous n'ayez jamais dormi dans un berceau de jonc, mais nous, à Sarne, nous l'avons tous fait. Il s'y trouve une telle quantité de roseaux, et la vieille dame Begindi en était une fameuse pour ce qui était de les tresser sur des cercles de tonneaux. Ensuite, il fallait les fixer sur des bascules et il en sortait un charmant berceau tout propre, vert et souple, dans lequel le bébé pouvait se sentir aussi à l'aise qu'une petite chenille dormant dans son cocon. Qu'un brillant papillon en devenir, aurait dit Kester. Kester est très doué pour ce genre d'appellation. Jamais il ne dira « chenille ». Il dira « il y a beaucoup de papillons en devenir sur nos choux, proues ». Il ne dira pas « c'est l'hiver ». Il dira « l'été d'or ». Et il n'y a pas de bouton assez petit ni assez terne que Kester n'appelle les prémices de la floraison. Mais ce n'est pas encore le moment de parler de Kester. L'histoire que je veux raconter, c'est celle de nous tous, à Sarne, de mère, de Gédéon, de moi-même, de Jancis qui était si belle, du sorcier Begindi et de 2 ou 3 autres personnes qui vivaient en ces lieux. Nous étions peu nombreux. Il en sera probablement toujours ainsi, parce que l'endroit en décourage beaucoup. C'est peut-être à cause de ce clapotement d'eau du début à la fin de l'année. Partout l'on voit et l'on entend de l'eau. Ou à cause de ces grands arbres qui semblent attendre, pensifs de tous côtés. Ou bien à cause du calme irrespirable du lieu. Comme s'il n'avait été créé que pour une heure déjà révolue et non pour nous. Et ce peut aussi que ce soit parce que le sol est très pauvre et marécageux, avec une herbe qui n'est pas nourrissante, comme il arrive souvent aux endroits où poussent abondamment roseaux et joncs et la fleur de coucou. Vous l'appelez peut-être prime vert, mais nous l'appelons toujours coucou ou clé du paradis. C'était une merveille que de voir nos prairies à Sarne quand les primes verts étaient en fleurs. Elles étaient couvertes d'or, au point qu'on ne s'imaginait pas même le pied d'un ange digne de les fouler. On pouvait se faire un beau bouquet bien tassé avant qu'une grive n'ait pu terminer 2 fois son chant, car il suffisait de s'asseoir et d'en rassembler à pleine main. Où que vous regardiez, tout était couvert d'or. Mis à part les bois qui commençaient devant Sarne et la grande étendue d'eau grise qui étincelait et frémissait sous le soleil. Ni les bois, ni l'eau, ne semblaient sombres en ce délicieux temps de printemps, où apparaissaient les feuilles nouvelles et les bourgeons des bouleaux de la couleur du blé. Seul notre bois de chêne gardait une apparence d'arrière-saison, dont leurs jeunes feuilles étaient brunes. C'est ainsi qu'il y avait toujours un petit air d'octobre dans notre mai. Cependant, c'était une agréable chose que de s'asseoir dans ces prairies, et de poser son regard sur les collines lointaines. Les ménèzes s'élançaient dans leurs vers vifs. L'or des primes verts semblait pénétrer votre âme, et même les temps de Sarne n'étaient qu'une brume bleue dans la brume jaune des bouleaux. Et il y avait une telle densité de rêves en cet endroit que si une abeille venait à passer, sans parler d'un bourdon, cela vous faisait sursauter comme un cri. Encore maintenant, Quand une abeille vient à ma fenêtre vers mon pot de giroflée, je revois tout cela clairement. Avec plage étendue sous le soleil couchant, au-delà des bois, tel un morceau de bouteille ébréché. L'étang de plage était plus grand que celui de Sarnes, et il n'y avait pas même un arbre autour, si bien que, là où ne se trouvaient point les collines, vous pouviez y voir accrocher les nuages, en sa partie la plus éloignée. Et cela me faisait toujours penser au nénuphar blanc, qui s'étale sur les bords de l'étang de Sarnes, tout au long de la moitié de l'été. Il n'y avait rien qui différenciait l'étang de plage d'un quelconque étang ou lac. Il n'y avait ni eau trouble comme à Sarnes, ni village dans les profondeurs, pour faire retentir ses cloches du tréfond de l'eau. C'était vrai ce que les gens disaient de Sarnes, qu'on y sentait quelque chose d'étrange. À Plache vivaient les Béguidi, et ce fut dans leur habitation composée d'une partie en pierre et d'une partie troglodyte que je reçus mon livre d'apprentissage de la lecture. Il peut vous sembler curieux qu'une femme d'humble condition comme moi puisse lire, écrire et mettre toutes ces choses dans un livre. À vrai dire, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de grandes dames, même, qui savaient faire plus que griffonner une lettre d'amour. Certaines ne savaient qu'écrire « coin et pomme » sur leur pot de confiture, et d'autres réussissaient à peine à signer leur nom sur l'acte de mariage. Nombre d'entre elles sont souvent venues vers moi pour que j'écrive leur lettre d'amour, et c'est une tâche bien amère que d'écrire de son propre cœur brûlant les lettres d'amour d'autres femmes. Et s'il n'y avait pas eu Maître Béguidi, je n'aurais pas pu coucher sur le papier toutes ces choses. Il m'apprit à lire, écrire et compter. Et quoiqu'il fût un homme réprouvé, qu'il prétendait faire beaucoup de choses que je ne crois pas qu'il ait jamais faites, qu'il trempait dans d'autres qu'il n'est pas bon pour nous d'approcher, je n'oublierai cependant jamais de remercier Dieu pour lui. À présent, il me semble que ce fut une œuvre très inhabituelle de la puissance divine de mettre dans le cœur de Béguidi ce désir de m'enseigner. Car un sorcier peut difficilement être appelé un serviteur de Dieu, mais plutôt un des hommes de Lucifer. Non que Béguidi fût méchant, il était seulement dépourvu de bonté, comme si tout bien était brûlé alentour par la flamme de son esprit ardent, qui se devait de connaître tout et de pénétrer tous les mystères. Quant à l'amour, il n'en connaissait pas même le nom. Il pouvait lire dans les étoiles, prédire l'avenir, et prétendait avoir conjuré les esprits. Une fois je lui ai demandé où était cet avenir qu'il voyait si clairement. Il a répondu, « Il est avec le passé, cher enfant, à l'arrière du temps. Vous ne pouviez jamais trouver mieux que Maître Béguidi. » Pourtant, quand j'ai répété à Questeur ce qu'il avait dit, Questeur ne le voyait pas ainsi. Il dit que le passé et le futur étaient deux navettes dans les mains du Seigneur, tissant l'éternité. Questeur était lui-même tisserand, ce qui avait pu lui donner cette idée. Mais moi, je pense que personne ne peut savoir ce que sont le passé et le futur. Nous sommes si petits et si faibles sur cette terre, qui est comme un berceau de joncs verts, où repose l'humanité, qui regarde les étoiles sans savoir ce qu'elles sont. Dès que je sus écrire, je confectionnais un petit cahier avec une couverture de calicot et, tous les dimanches, j'y inscrivais les moments joyeux et les événements heureux qui nous étaient arrivés au cours de la semaine. Et c'est ainsi que je les ai conservés. De même, quand survenaient des moments de trouble m'apportant de l'amertume, je les transcrivais également et me sentais soulagé. Aussi, quand notre pasteur, connaissant les mensonges dont j'étais la cible, me pria d'écrire tout ce dont je pouvais me souvenir, en y mettant toute la vérité et rien d'autre, je fus en mesure de me rafraîchir la mémoire avec toutes ces choses que j'avais décrites dimanche après dimanche. Enfin, tout cela a disparu maintenant, et le chagrin, et le combat. Les temps sont paisibles à présent, comme ces tranquilles soirées d'hiver pleines de neige, quand le ciel est vert et que les agneaux bêlent. Assise près du feu avec ma Bible à portée de main, je suis une très vieille femme bien lasse, à qui il reste une tâche à accomplir avant de dire adieu à ce monde. Quand je regarde par ma croisée et que je vois la plaine et le grand ciel avec les nuages au-dessus des montagnes, je me souviens des bois épais de Sarne, et du crissement de l'étang pris par les glaces, et du chemin que prenait l'eau pour arriver dans le placard sous les escaliers, lorsqu'elle surgissait à la période de la fonte des neiges. Il n'y avait que peu de ciel à voir là-bas, à part celui reflété par l'étang. Mais le ciel qui est dans l'étang n'est pas le vrai ciel. Il est plus sombre, comme dans un miroir, et il s'y trouve des roseaux avec leurs ombres allongées, qui deviennent fines et pointues parmi les étoiles glissantes, et même la lune et le soleil peuvent en être exclus, parce qu'il peut arriver parfois que la lune se perde parmi les feuilles de nénuphar, et parfois qu'un héron se dresse devant le soleil.